Manaono, salam, bienvenue sur Malabar. Je suis Simb, je suis l'hôte du podcast Malabar. Malabar, c'est le premier podcast qui vous fait découvrir Madagascar autrement. À travers les expériences de mes invités, je vous emmène à la découverte de ce pays qui regorge non seulement de richesses, j'ai nommé la vanille de Madagascar, mais aussi et surtout d'une génération fantastique qui veut aider le pays à se développer. Dans chaque épisode, vous découvrirez le parcours de mon invité, ses expériences et son regard porté sur le pays. Montage et réalisation de chaque épisode, Maillé Rami Prod, je vous mets tous les liens dans les notes de chaque épisode. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Thiour et bienvenue sur Malabar, comment vas-tu?
Bonjour Sam, ça va très bien, merci et merci de m'avoir invité.
Alors, si je dis Thiour, personne ne va assimiler, ou peut-être très peu de gens vont assimiler qui tu es réellement avec qui tu es virtuellement. Donc, est-ce que tu peux te présenter d'abord aux auditeurs, s'il te plaît?
D'accord, alors moi c'est Thiour, mais je suis plus connu sous le nom de Tikal ou Tiakal, ça dépend de qui parle. Moi je dis Tikal et je suis connu pour une page de bouffe qui s'appelle Tikal du coup, qui met en avant un peu tous les spots et les bons plans nourriture sur Mada, principalement Tana, mais quand je me balade un peu, j'ai ceci de parler des autres provinces, on va dire.
D'accord. Tikal, ça veut dire quoi, Thiour?
Tout simple, ça veut dire j'aime aimer manger ou aimer la bouffe. Ça va dans les deux sens en vrai. Donc voilà, Tikal. Voilà, en deux mots, Tikal.
Tu aimes ça, manger?
Je pense que oui, quand même.
Oui. Ouais. Et est-ce que tu aimes cuisiner ou tu aimes manger ou tu aimes les deux?
Alors, j'aime bien cuisiner certains trucs. J'aime moins l'aspect ranger, vaisselle, préparation, tout ça. Donc, je vais te dire que je préfère manger à cuisiner.
D'accord. Donc,
mais...
Ok. Si on repartait un peu en arrière pour savoir dans quel contexte tu as grandi, comment tu es devenue aujourd'hui Tikal, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance déjà? Où est-ce que tu as grandi? Si tu as toujours été à Mada, à Tana, pour qu'on se familiarise un peu avec ton enfance.
Ok. Alors moi, j'ai grandi une grosse partie à Tana, bien sûr. Très classique, je dirais. Enfance normale, j'ai pas eu trop de soucis particuliers. Et puis à un moment, j'ai étudié pendant 2 ans en France à Paris. Donc et puis je suis rentré à Mada lorsque j'ai fini mes études pour revenir ici. Dans un contexte qui n'est pas trop non plus dans le monde de la nourriture en soi, dans le sens où mes parents ne sont pas chefs ou ils n'ont pas de restaurant ou quoi qu'est-ce, mais c'est vraiment juste surtout ma mère qui, elle, cuisinait beaucoup à la maison, mais des plats surtout souvent européens. Elle sait pas trop cuisiner les sacs afghans parce qu'elle aime pas trop mettre du ménac dedans, alors que c'est le secret pour que ça soit bien bien mature. Donc voilà. Et il y a eu ce contexte là quand j'étais petit. Et j'ai eu une période très très pâtisserie où je me suis mis à faire pas mal de pâtisserie quand j'étais enfant ado par là-bas. Il y avait un gros livre de recettes qu'à un moment, j'étais vraiment en mode, je vais essayer toutes les pages une par une, je me souviens. Mais comme je disais tout à l'heure, j'aimais moins l'aspect rangement et tout. Et du coup, parfois, je cuisinais. Et ma mère me disait, ouais, si tu ne ranges plus après, tu ne feras plus. Et du coup, après, je n'ai plus fait parce que je n'ai pas rangé. Donc voilà un peu cette partie enfance, les souvenirs qui me remontent un peu en tête à cette époque-là. Et je me souviens, quand j'étais petit, à un moment, on te dit quel métier tu veux faire plus tard. Moi, j'avais plein de métiers qui m'étaient venus en tête, mais qui, pour moi, à cette époque-là, c'était impossible de faire un MADA. Donc, par exemple, ça pouvait être testeur de jeux vidéo, journaliste dans les jeux vidéo, joueur NBA, commentateur NBA. Et puis, entre autres aussi, il y avait chauffeur guide, parce que mon père est dans le tourisme. Et puis, j'avais aussi je voulais être critique culinaire aussi, à un moment. Et dans ma tête, c'était vraiment mode, tous des trucs que tu peux pas faire, quoi. Donc, j'ai fait économie-gestion.
Et ça t'a plu?
Est-ce que ça m'a plu? j'ai pas particulièrement aimé, mais j'ai pas particulièrement pas aimé non plus. C'était bien, dans le sens où c'est assez global en soi. Donc, tu te spécialises dans rien en vrai, mais t'apprends des choses que tu peux réutiliser plus tard et que j'ai réutilisé plus tard du coup, parce que vers la fin de mon cursus, j'ai fait un master en gestion de projet. Et donc, pas mal de notions que tu peux réutiliser quand tu te lances dans des trucs. Et vu que maintenant, je me suis lancé dans pas mal de trucs quand même, je dirais, donc il y a des choses réutilisables. Donc, ce que j'aime bien dire, c'est que en soi, tout ce que tu apprends, il n'y a rien qui se perd en vrai. Genre, à un moment ou à un autre, tu vas en avoir besoin. Même si jusqu'à maintenant, je cherche encore à quel moment je vais utiliser les domaines de définition dans les mathématiques. Donc, ça, j'attends. Mais ouais. Voilà, en résumé.
D'accord. Tu disais tout à l'heure que tu as passé 2 ans en France. On dit toujours que la France, c'est un pays gastronomique. C'est quand même un pays qui est connu pour sa gastronomie raffinée, de qualité. Toi, déjà, à cette époque, quand tu es venu en France, est-ce que tu étais déjà un fan culinaire de restaurants, de découvrir des saveurs, etc., ou pas du tout? Et aussi, ma deuxième question, c'est est-ce que tu as découvert des choses qui t'ont vraiment, jusqu'à aujourd'hui, marqué culinairement?
Alors, quand j'étais en France pour mes études, j'avais pas encore ma page à ce moment-là. Donc, j'étais vraiment étudiant. J'avais quel âge? J'avais. J'ai oublié quel âge j'avais.
Trentaine
Bref, j'étais
d'années.
encore jeune. Oh, ça remonte, c'était à 10 ans. Donc, j'avais 20 ans à peu près autour de 20 ans. Voilà, tu as fait un petit calcul. Et du coup, à ce moment-là, non, j'étais pas trop dans la France gastronomie. Quand tu es étudiant, tu as un budget étudiant. Donc, tu peux pas aller. Tu vas au Grec, tu vas dans un McDo, dans un KFC, dans un Domino's, dans un buffet chinois quand vraiment tu veux te faire plaisir de temps en temps. Donc je ne connais pas trop la France gastronomique plus raffinée, cuisine française, terroir, etc., etc. Donc ça ne m'a pas trop, c'était pas trop mon quotidien à cette époque-là. Et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que jusqu'à maintenant, quand je reviens en France, en vrai, je me fais un parcours food, mais food nostalgique. C'est-à-dire que je me refais juste les fast-food que je faisais avant. Et tellement ça m'a marqué, tellement j'ai fait ça. Et j'étais en mode, donc, je me fais un CBO, je me fais un bucket KFC, je me fais un Domino's Pizza parce que la cannibale, j'aime trop ça. Et pour moi, pour l'instant, la France, c'est surtout ça versus les autres trucs. Par contre, un truc qui m'a marqué, et qui c'est vraiment bon, déjà c'est le grec, voilà, c'est le kebab. À ce moment c'était à 6,50 et c'était le truc facile quand tu voulais pas trop dépenser, que tu voulais être bien bien full, tu avais 6,50, tu avais ton petit grec et puis tu étais bien. Et sinon il y a un brunch qui était du côté de Lyon qui s'appelle le Déjeuneur. Et j'ai trouvé ça vraiment trop bon, trop incroyable, dans le sens où c'est des trucs simples en vrai, genre c'est des pancakes, c'est des granolas, c'est du bacon crispy, pas très français en soi en vrai, mais tellement bien préparé, tellement généreux que pareil, à chaque fois que je passe un peu sur Lyon, j'insiste avec mes potes, faut qu'on y aille, faut qu'on y aille. Et voilà, c'est des trucs comme ça qui m'ont plus marqué versus qu'est-ce que je te dirais? Par exemple, bœuf bourguignon ou des trucs pour lesquels la France est plus connue, je
Foie
pense. Donc,
gras, ok.
voilà. Donc voilà, j'avais ce petit pas. Je crois que j'ai jamais mangé de foie gras en France en vrai, quand je réfléchis. Encore une fois, budget étudiant, donc voilà.
Oui, bah oui. D'accord. Et donc du coup, tu disais que tu avais fait des études en économie-gestion.
Ouais.
Après ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Tu travailles? Tu lances ta boîte? Qu'est-ce que tu fais?
Ok. Alors, quand je suis arrivé en France, j'étais déjà là pour mon année de master 2. Donc, c'était ma cinquième année. Et quand j'ai fini mes études, après, il y avait un petit souci de communication en fait au niveau de l'école. Donc, je ne savais pas trop ce qui était possible, ce qui n'était pas possible. Et moi, j'étais juste en mode, dans ma tête, c'était juste, vas-y, un an, c'est trop court pour rentrer tout de suite. On va encore voir un peu pour gratter un peu plus. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je crois que j'ai lancé quelques demandes pour trouver du taf, mais même pas, je crois. Mais j'ai surtout poussé au niveau des inscriptions. Mais j'étais très, très, très en retard aussi. Et moi, ce qui me restait, c'était soit une inscription en licence de polonais, soit c'était une inscription en licence de malgache. Et pour le coup, je me suis dit, mon gars, on va quand même faire un minimum de respect pour soi-même. Je ne vais pas prendre la licence en malgache. Je n'ai rien contre les gens qui prennent des licences en malgache. Hein. Mais je me suis dit, vas-y, c'est un peu trop cramé si tu fais ça pour comme ça. Et du coup, j'ai pris licence polonais. Même moi, j'y croyais pas du tout quand j'ai fait ma lettre de, parce que du coup, fallait faire une lettre pour justifier le changement de cursus. Comment tu passes d'un master de management à du polonais. Mais, j'avais bien ficelé mon coup parce que, pour mon stage de fin d'études, je me suis occupé d'un festival de jeunes. Il y avait plein de jeunes un peu de toute l'Europe, dont des Polonais, qui m'ont appris quelques mots sympas. Et du coup, j'avais dit, jusqu'à avec mon père aussi, donc, qui est dans le tourisme, il m'a dit, vas-y, tu peux mettre dans ta lettre pour faire découvrir Madagascar à la Pologne. Voilà, c'est pour ça que je suis en train d'apprendre le polonais. Et du coup, ma demande a été acceptée. J'étais parti, je pouvais être parti pour un an de polonais, en vrai. Et c'est drôle parce que quand je suis arrivé dans la classe et tout, après, à un moment, il faut expliquer pourquoi tu fais une licence de polonais, parce que c'est pas une langue très commune. Donc, tout le monde avait une histoire du style, oui, parce que ma copine est polonaise, ou bien parce que j'ai une partie de ma famille qui vient de là-bas. Bref, des trucs vraiment très, très ancrés, on va dire. Et moi, j'étais juste là avec ma petite histoire, tchac, tchac, tchac et tout. Et en vrai, j'ai tenu 3 mois. Et pour les vacances, je suis rentré à Mada pour les vacances de Noël, je me souviens. Et en mode, j'étais en mode, j'ai raté les examens, donc je n'étais pas là. Donc c'était déjà en mode, non, on ne va pas continuer. Tu vois. C'était en mode, un peu fuck it. Et puis, on peut dire, on peut swear sur ce podcast ou pas ?
Vas-y, vas-y.
C'était en mode, on s'en bat, on s'en fiche un peu, tu vois. Et je suis quand même revenu en France, mais c'était vraiment pour... plutôt pour profiter des derniers mois de visa en vrai j'étais vraiment déjà dans l'optique vas-y je vais juste profiter, je vais faire des petits jobs étudiants pour accumuler un peu de sous pour me faire un peu plaisir et vers la fin après je suis rentré sur Mada parce que de base mon projet quand même dès que j'étais parti c'était de rentrer quoi, j'étais jamais parti dans l'optique comme de faut que je reste ici à fond dans tous les cas ou peu importe ce que je dois faire, non moi j'étais en mode je pars et puis je vais revenir pour faire des choses à Mada.
Mais t'avais aimé cette période en France? Quel souvenir t'en as de la France ?
Oui, en fait, la France, pour moi, c'était pas trop inconnu dans le sens où quand on était depuis qu'on est déjà petit, on avait l'habitude d'y aller un peu chaque année. J'ai eu cette chance-là grâce à mes parents. J'y suis même allé genre en mode UM ou unaccompanied, genre donc tu vas genre vraiment tout seul sans tes parents et tout. C'était un peu notre rituel. Quand t'as 11 ans, je sais plus 11 ans ou 13 ans, on profite pour t'envoyer parce que c'est le dernier âge pour avoir le billet enfant. Et donc voilà, pour moi, la France, c'est toujours des bons souvenirs dans tous les cas parce qu'on a de la famille, on a des amis, on a vraiment des bons trucs. Et moi, quand j'étais étudiant, j'ai eu la chance aussi d'être dans un foyer étudiant avec plein de gens de plein de pays différents. Il y avait des Mauriciens, il y avait des Français, quelques Français, plein de trucs différents. Et il y avait un gymnase avec un terrain de basket. Et pour moi, c'était ouf, genre waouh, trop bien, j'habite dans un truc où il y a un gymnase. Et donc déjà, cet aspect-là. J'ai un de mes meilleurs potes jusqu'à maintenant que j'ai rencontré durant cette période-là, donc que des souvenirs vraiment positifs en soi, j'ai eu mes premiers jobs étudiants, donc majoritairement j'ai quand même eu que des bons souvenirs, bon après comme bien sûr tout le monde il y a des petites galères mais rien tout de suite qui vient en tête en mode waouh ça c'était vraiment trop chaud, c'était trop compliqué, ça va. Par contre un truc honteux, mais vraiment j'ai honte, c'est une fois j'étais en job étudiant, j'étais en soutien scolaire du coup pour une petite famille et genre ils étaient trop contents et moi aussi parce que du coup apparemment c'était un peu compliqué au début, genre d'autres personnes que j'avais trouvées correspondaient pas trop à l'enfant et moi j'étais trop content, mais après 2-3 mois, je crois, je devais rentrer pour des questions de visa, pour des questions, passer des vacances un peu en Mada. Et du coup, je leur ai dit, bah, écoutez, je dois partir, je suis désolé. Et à ce moment-là, genre, ils avaient pas mal pris, mais ils étaient juste en mode, ok, c'est dommage, c'est trop triste et tout, tu dois partir, etc. Je suis rentré, ils m'ont envoyé une petite carte avec la photo des enfants et tout. Et j'étais en mode, oh, trop bien. Mais par contre, je suis revenu en France après, mais ça, je leur ai pas dit. Et une fois je reviens, je me mets à travailler sur un nouveau job à Decathlon, en tant que vendeur à Decathlon du coup. Et à un moment, je suis en train de faire mon petit rayon et tout. J'étais au rayon fitness, d'ailleurs, trop drôle. J'ai jamais fait de fitness de ma vie à cette époque-là. Et puis, je me retourne et puis j'entends un tour. Et je me retourne et qui je vois? Bah, c'est le gosse qui est là. Genre, le choc sur son visage, il est en mode « What ?» Et après, sa mère qui retourne et dit « Tiens, mais vous n'êtes pas à Madagascar ?» Et j'étais en mode « Je peux expliquer ?» Et Pépé, le manager qui est sorti, qui m'a dit « Il y a un problème ?» J'ai dit « Et après, voilà, ils sont partis. » Mais ça reste... ouf, ça m'est tellement... j'ai tellement honte. le mal à l'aise, là, il était à un niveau assez élevé. Bref, voilà.
J'aime l'anecdote. Donc, tu reviens en France, tu travailles chez Decathlon. Tu as aimé Decathlon? On dit toujours que c'est une très bonne expérience.
Oui, franchement, c'était positif, mais ma meilleure expérience qui n'a duré que 2 semaines et du coup qui est là, qui est en rapport avec la bouffe, c'était chez Domino's Pizza. C'était mon tout premier job étudiant et ça a duré 2 semaines. Pourquoi? Parce que, alors au début, il fallait conduire un scooter du coup, parce que du coup, quand tu es à Domino's, tu fais un peu tout, genre tu fais livreur, tu fais caissier, tu fais à manger un peu derrière. Et le mec, il m'a dit, du coup, tu sais conduire un scooter? Et j'ai dit, ouais, il y a pas de... Ouais, je sais conduire. Mais ce que je lui ai pas dit, c'est que j'ai conduit qu'une fois dans le jardin d'un pote. Donc voilà, j'étais en mode, bon, vas-y. Et le premier jour de formation, le mec qui m'accompagnait a tout de suite vu que je ne savais pas vraiment, vraiment conduire un scooter. Du coup, il m'a montré, etc. et tout. Et en vrai, ça s'est vraiment super bien passé. Vraiment 2 semaines super méga cool. Genre, ce qui est trop bien, par exemple, à Domino's, par exemple, tu vois, quand il y a un match de foot, les gens, ils commandent, ils ne viennent pas récupérer. Et du coup, après, derrière, tu te retrouves avec 20 pizzas qu'ils ne peuvent pas revendre et qu'ils ne vont pas jeter. Et toi, tu peux ramener ça chez toi, tranquille, au calme. J'avais un autre pote qui est rentré en même temps que moi. Du coup, on a trimballé 10 boîtes en rentrant dans le foyer. On a rempli le placard, on a rempli le frigo. On a dit aux gens, servez-vous. Et après, j'ai aussi fait mascotte, tiens. parce qu'on est dans une période un peu estivale. Et du coup, je suis rentré dans la mascotte et tout. Bref, que des moments sympas. Mais malheureusement, 2 semaines après, ça s'est arrêté parce que j'ai eu un petit accident de scooter. C'était juste entre moi et genre un plot sur la route, hein, avec personne d'autre. Et du coup, j'ai un peu défoncé le scooter. Et c'est ainsi que s'est achevé ces 2 magnifiques semaines chez Domino Speed.
Donc, tu t'es fait virer ou tu as démissionné?
Non, je me suis fait virer.
D'accord. Ouais. Et attends, mais les gens, ils commandent des pizzas, donc 20 pizzas, mais ils ne les payent pas. Ils les laissent et...
Non, ils ne payent pas. Non, ils commandent, et parce que tu peux payer à la réception, et ils ne payent pas, ils laissent là, et puis bah, là, tu te retrouves avec, quoi.
D'accord. Donc, c'est bien, t'as pas mal travaillé, t'as fait Decathlon, Domino's Pizza, la mascotte en plus. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe après Decathlon quand tu fais ton petit job étudiant?
Ok. Alors, Decathlon, à la fin de ma période d'essai, c'est la période où je rentre en mode en vrai. Parce que du coup, comme je disais tout à l'heure, moi, j'étais en mode « vas-y, on va juste profiter un peu et puis on va rentrer, tout simplement ». Donc, à la fin, je rentre à Mada et je suis sur Mada. Et pour l'instant, j'arrive et tu vois, t'es pas trop en mode « vas-y, c'est le rush et tout, on s'assoit un peu, on profite un peu, tchac, tchac, tchac ». Et j'ai fait un entretien pour rester en poste dans rapport avec la comptabilité. Je sais même pas pourquoi je l'ai fait, d'ailleurs, parce que la comptabilité, je déteste ça. Heureusement, c'était pas accepté. Et après un moment, genre tout simple, genre j'ai un cousin à moi qui a une petite boîte ici qui vend des accessoires de smartphone. Enfin, relation avec une entreprise en France qui vend des accessoires de smartphone et qui m'avait dit, bah écoute, si ça te dit, est-ce que ça te dit de venir travailler chez nous en tant que rédacteur? Et moi, comme de base, j'aimais toujours toute la partie écrire, j'étais en série littéraire du coup à l'école, j'ai toujours adoré ça. Et puis je me suis dit, bah vas-y, écoute, pourquoi pas, on va faire ça. Et du coup, ce qui se passe après, c'est que pendant 7 ans, je reste dans la boîte, alors que de base, moi, je me voyais pas travailler dans des bureaux. Genre, c'était vraiment pour moi, c'était genre, moi, je me voyais en mode de se balader, genre explorer, voilà, bah, être dehors et tout. Mais pendant 7 ans, j'étais dans cette boîte-là, du coup. Et c'est ainsi que s'est passé les 7 prochaines années de ma vie, à peu près.
Toujours à Tana, ça.
Toujours à Tana, ça.
D'accord. Ouais. Et le côté... là, on est dans... En quelle année, juste pour avoir une idée, on est dans les années 2010, fin 2010
Non, on est 2013, là, du coup.
2013. J'ai commencé à
travailler en 2013, ouais.
Ok. Et là, le food, il est toujours un peu dans ta vie, pas du tout. Quelle place tu accordes, là, au food?
Attends, ça c'est mon réveil. Normalement, c'était l'heure de ma sieste. Et du coup, le food là, il était. Et c'est là que le food il va commencer à prendre un peu plus de place dans ma vie. Dans le sens où, à Tana, en vrai, surtout cette époque-là, il n'y a pas grand chose à faire, tu vois. Genre, soit tu aimes sortir, tu vas en boîte. Moi, je ne suis pas du tout dans ce délire-là. Ou bien tu vas manger. Et du coup, moi, je vais très, très, très souvent, je vais souvent manger. Et du coup, il y avait une période où les gens, ils me demandaient où manger ci, où manger ça, etc., etc. Donc, je donnais des conseils, genre un peu en privé. Bah, tu peux essayer ici, tu peux aller, etc. Et tout. Et du coup, les gens, ils trouvaient que c'était, ah, ok, ils donnent quand même des bons conseils. Et puis, à un moment de ma vie, à part faire avec une collègue, on blaguait pas en mode de, vas-y, je vais lancer une page. Et on était en mode, mais non, ça va pas marcher, ou ça va pas intéresser les gens, ou des trucs comme ça, genre les excuses que tu trouves toi-même pour pas faire un truc. Et du coup, voilà, pendant quelques mois, l'idée était là, mais n'a jamais abouti. Et après, du coup, comme je disais, j'étais dans la boîte pendant 7 ans. Et après 7 ans, t'en as un peu marre quand même, parce que t'as un peu fait le tour. J'étais dans une position très bien, tranquille, etc. et tout. Mais voilà, genre la routine était vraiment là, s'est installée beaucoup. Et du coup, j'ai démissionné. J'ai juste démissionné. Et mon père, il était genre devenu genre, mais what the fuck, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi personne démissionne d'un taf sans avoir quoi faire après? Parce que j'ai vraiment démissionné sans avoir quoi faire après. Mais ce qui s'est passé, c'est que avec cette décision-là, mon boss, il est venu et il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Du coup, il est arrivé de Paris et moi, je lui ai dit, bah écoute, moi, je me fais un peu chier, j'ai besoin de changement parce que ça fait trop longtemps que je fais la même chose, j'ai vraiment besoin d'un changement là. Et il m'a dit, bah écoute, pourquoi tu ne viens pas travailler à Paris? Et j'ai dit, t'es sérieux? Il m'a dit, ouais, je suis très sérieux. J'ai dit, ok, vas-y, on va faire ça. Et du coup, on a commencé les démarches. Et pendant 6 mois à peu près, les démarches, elles ont un peu traîné, traîné tout. Moi, à un moment, ils ont demandé des papiers en plus. Donc moi, je pensais que ça allait être bon. Mais c'était refusé. Donc 6 mois après, bim, tu te dis, tu vas partir. Finalement, tu pars pas. Bon, j'étais un peu déçu, un peu triste, tout ça, tout ça. Mais c'était aussi un autre déclic dans ma vie où je me suis dit, bon, vas-y, de toute façon, t'es Amada, t'as rien à perdre, vas-y, fuck it, lance ta page. Et c'est un peu ça, ce déclic-là qui m'a fait lancer la page Tikal en 2020, du coup. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est un peu comme ça que ça avait commencé.
D'accord. Quand tu dis lance ta page, c'était sur Instagram directement?
Non, au début, en fait, j'avais une vision vraiment site web. Donc, j'ai vraiment lancé un site web. J'avais pris un nom de domaine. J'ai lancé un site web blog en même temps et sur Facebook en même temps aussi. Parce que, surtout à cette période-là, Instagram était beaucoup moins poussé que maintenant. C'est vraiment sur Facebook que les choses se passent. Donc, j'ai fait ça. Et le site où je l'ai tenu, je sais pas combien de mois, parce qu'après, je me suis rendu compte qu'il y a très trop peu de trafic sur un site Amada et que ça prenait trop de temps d'écrire des longs articles et tout que personne ne va lire à part ta famille. Finalement, je me suis dit, OK, bon, le site, on va un peu stopper pour se concentrer sur la création de contenu pur pour les réseaux sociaux. Donc
D'accord.
voilà, Facebook et Instagram a suivi quelques mois après, mais je ne saurais plus trop te dire c'était quand déjà.
Mais toi, sur le site internet, c'était vraiment plus de la rédaction, parce qu'aujourd'hui, Instagram, c'est plus visuel, vidéo, qu'on partage. Toi, en fait, au tout début, c'était vraiment de la critique que tu faisais, c'était quoi?
C'est vraiment de la longue, longue rédaction et donc rentrer en détail dans chaque plat, dans vraiment, c'était des longs textes de. Ouais, c'était vraiment des blogs. Alors, je sais pas si critiquer le mot, mais en tout cas, c'était juste un retour d'expérience, quoi. Je dis juste ce que j'aimais bien, ce que j'aurais voulu voir d'autre, ce que j'aurais changé. Donc voilà, dans un but toujours d'améliorer les choses. Et puis, l'un de mes premiers spots que j'ai fait, c'était Sohot. C'est un spot burger, pizza un peu et tout. Et c'est cool parce qu'après, du coup, cette année, on a eu l'occasion de travailler ensemble. Et puis, ils se souviennent encore. Je me suis dit, mais je me souviens quand tu avais fait ton premier truc, c'était pour nous. J'ai dit, oui, c'était bien ça.
C'est
Donc,
marrant. Et donc aujourd'hui, tu as toujours le Facebook et l'Instagram. Par contre, tu n'as plus ton job en continu, mais du coup, ça t'a aidé, non, de faire du contenu pendant 7 ans, parce que maintenant, tu l'utilises pour toi.
Oui, mais à fond, comme je disais tout à l'heure, tout ce que tu fais, c'est vraiment, tu accumules ton expérience. Et dans le contenu, j'ai pas fait rédacteur pendant les 7 ans. Hein. J'ai fait rédacteur, puis après, j'ai switché, genre un peu responsable local, puis je suis devenu responsable vraiment de la boîte qui était sur Mada. Donc plein d'expériences en contenu, en gestion ressources humaines, en gestion du timing pour soi-même, plein de trucs comme ça. Et ça m'a été très pratique aussi parce qu'à un moment, je m'étais à vendre des cookies. J'ai lancé une petite boîte en ligne de cookies pendant un an et demi à peu près. Et tous ces trucs-là aussi, du coup, se sont retrouvés à être utiles dans cette autre expérience-là.
D'accord.
Mais oui.
D'accord. Et donc, avec ta page Tikal, aujourd'hui, tu cumules presque 21 000 followers, si je ne dis pas trop de bêtises, ou 20 500, quelque chose comme ça.
Ouais. Ouais.
Ça t'occupe 100% de ton temps?
Alors, pour l'instant, non. Enfin, si, c'est vraiment oui et non. Oui et non, dans le sens où à chaque fois, moi, je fonctionne vraiment beaucoup, beaucoup dans la spontanéité. Donc, c'est-à-dire que souvent, mes posts, je ne les planifie pas trop, trop en avance. Donc, si je vois juste un truc, tu vois, ça va me venir en mode tic-tac, vas-y, je vais poster, vas-y, je vais faire en story, vas-y, je vais faire un post sur ça, etc. et tout. Donc, dans le sens où c'est toujours dans ma tête, ça occupe une grande partie, ça occupe mon quotidien, en vrai, dans ma tête. Mais pour l'instant, je travaille à mi-temps dans une entreprise. Mais j'ai déjà annoncé, mais j'arrête à la fin de, au début de, j'arrête fin janvier pour faire que ça après, pour faire que la création de contenu. Donc
D'accord,
c'est
d'accord.
une étape.
Alors là, du coup, j'ai plein de questions. Déjà, quel est ton titre pour toi? Parce que tu sais, on parle d'influenceur, on parle de critique culinaire, on parle de créateur de contenu. Toi, le jour où tu vas démissionner de ton métier que tu as à côté à temps partiel et que tu vas te consacrer à 100% à Tikal, quand les gens vont te demander qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu réponds quoi?
Moi, je dis créateur de contenu. Je pense que ça englobe bien ce que je fais. Et puis, c'est ce que je fais en vrai. Je crée du contenu autour de la nourriture. Et c'est ce que je mets aussi sur mon kit média, créateur de contenu food. Donc,
D'accord.
voilà. Parce que dans le sens où je fais pas que de la critique, tu vois, mais je fais vraiment genre, même je fais des mèmes, tu vois, même tous les mèmes que je poste, c'est souvent sur Facebook, les mèmes, mais même les mèmes, c'est autour de la bouffe. Ça va vraiment. Tous les trucs genre qui peuvent tourner autour de ça, genre je crée du contenu autour. Tu peux dire ça comme ça. Après, on me dit quand même qu'il y a pas mal d'influence. Donc oui, le mot influenceur pourrait être utilisé également, mais je préfère le terme créateur contenu food. Voilà.
Et toi, ton objectif aujourd'hui avec Tikal, c'est de permettre à toi de découvrir des restaurants ou de la nourriture, c'est de permettre à ta communauté de connaître les bons spots. C'est quoi? C'est dans quel but aujourd'hui que tu as Tikal?
Alors, les deux déjà, ça c'est sûr. Donc moi, ça me permet de découvrir des endroits. Les gens, ils découvrent des endroits aussi. Mettre en avant des endroits pas trop connus. Permettre à des restaurateurs d'être mis sur la carte. Après, c'est vrai que la dynamique de la page, elle a pas mal changé entre avant et maintenant. C'est-à-dire que si auparavant, pendant la première année, les 2 premières années, c'était très, très spontané, c'est-à-dire que là, c'est moi qui allais vers l'avant auprès des restaurants, créer des spots, etc. Et tout, je faisais du contenu juste comme ça, vraiment. Après, dernièrement, ça a pas mal changé dans le sens où c'est plus souvent maintenant, c'est les restaurateurs qui me contactent pour voilà, qui veulent que du contenu pour parler d'eux, etc. Et tout. Et du coup, là, c'est vrai qu'on a adopté une dimension un peu plus commerciale, hein, voilà, faut le dire. Et que donc, y a pas mal de spots maintenant du coup qui sont on va dire des spots sponsorisés, mais ça ne change rien dans le concept de base qui a toujours été le concept de base de la page depuis les premiers jours. C'est-à-dire que je ne poste uniquement que si un endroit m'a convaincu. Donc j'utilise souvent le terme validé, c'est un terme qu'on utilise, donc c'est validé et tout. Et donc dans tous les cas, si c'est un spot que j'ai mis, peu importe que ce soit sponsorisé ou pas, c'est que c'est un endroit où je vous dis vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci, faites-vous plaisir. Donc voilà le but.
Et tu ne penses pas que le côté sponsorisé commercial joue un peu quand même dans ta décision finale?
Non, parce que ça m'est vraiment arrivé déjà quelques fois de refuser du coup une collaboration alors que je suis déjà sur place, on a déjà testé le truc et tout. Et puis après j'ai dit ouais finalement ça va pas le faire, on va pas pouvoir avancer dessus. Et du coup j'ai rendu le chèque.
Et qu'est-ce qui
Parce
t'avait
que
pas plu?
bah en fait la nourriture n'était pas convaincante et puis on était avec une végétarienne et ils voulaient mettre en avant les tapas végétariens et elle a pas kiffé et du coup si une végétarienne ne kiffe pas bah c'est mort quoi, donc on peut pas trop pousser ça et c'est tout simplement ça. Après ils l'ont pris de façon vraiment très pro et ils ont dit ok on va revoir, on va améliorer les trucs et tout pour essayer d'améliorer tout ça et c'est vraiment mon but d'ailleurs à chaque fois, je veux dire que ça sert à rien du tout que je dise qu'un endroit est top si c'est pas le cas parce que ça va décevoir vraiment tout le monde, les abonnés, le restaurant, ça va pas l'aider, il va se faire défoncer sur Mac, le réseau, le groupe Facebook connu pour défoncer les restaurants, et bien sûr ça va tuer complètement ma crédibilité. Donc moi ça ne, je n'ai aucun avantage à dire si c'est que c'est bon si c'était pas le cas. Et donc vraiment à chaque fois, même quand je vais dans un endroit d'ailleurs qui m'a convaincu, on va dire à 90% et tout, il y a toujours des petits retours que je garde souvent plus pour le restaurateur lui-même, ça veut des trucs tout simples, mais dans le but encore une fois de d'améliorer pour que ce soit top pour tout le monde plus tard.
Et est-ce que tu peux nous raconter un peu comment toi tu procèdes quand par exemple tu vas dans un restaurant, qu'est-ce que tu regardes, à quoi tu fais attention du début jusqu'à la fin pour qu'on ait une idée un peu de ce que tu appelles un restaurant validé?
Ok. Alors, pour moi, déjà, de 1, je suis pas trop focus cadre. Enfin, je le regarde, j'aime bien, tu vois, un joli cadre et tout, mais c'est pas mon point primaire. Pas le service non plus, parce que du coup, je suis dans un contexte où souvent, quand on m'appelle, donc je sais que le service sera probablement peut-être pas le même quand les autres personnes vont venir. Donc voilà, ces deux côtés-là. Moi, je suis vraiment focus sur la nourriture en elle-même. Et sur l'aspect principal, ça va être d'abord le goût. Et ensuite, ça va être le rapport qualité-prix-quantité. Ça, c'est vraiment les deux aspects, les deux piliers sur lesquels je me base. Le goût, après, ça, c'est mes goûts personnels. Ça vraiment dépend de moi, de ce que je suis en train de prendre. Si je trouve que. Et pour le goût, alors, je focus sur trois principaux critères. Le goût en lui-même, la saveur, la texture. Et le visuel, voilà, est-ce que ces trucs-là donnent envie? Est-ce que une fois en bouche, est-ce qu'on n'est pas déçu de ce qu'on a mangé? Est-ce que les textures sont agréables, etc. Et tout. Donc des petits trucs sympas. Et puis après, est-ce que le prix correspond à ce qui a été offert? Donc pour répondre à cette question, ça va être en mode, est-ce que je rachèterais? En fait, tout simplement, c'était juste ça le truc pour dire est-ce que je rachèterais. Et quand les deux critères sont réunis, bah, du coup, je dis OK, vas-y, allez-y, vous pouvez y aller. Ça correspond aux attentes. Et puis, c'est un truc où tu ne seras pas déçu. Et puis, c'est cohérent avec l'offre. Donc, l'endroit est validé en soi.
D'accord. Et toi, une fois que par exemple tu mets un post en publication, est-ce que tu es en contact avec le restaurant pour savoir, juste pour toi, pour avoir de la donnée, ou peut-être que ça joue aussi sur ça, votre pacte commercial, combien de personnes sont venues grâce à toi? Est-ce que tu as des idées de chiffres ou pas du tout?
Ouais, bien sûr. Toutes les fins, parce que le plus gros impact, il arrive une semaine après la vidéo, souvent. Et je demande alors comment ça a été. Et très souvent, ils sont très contents. Genre, on a allez, une augmentation, par exemple, là, l'une des collaborations les plus récentes, c'est on a eu 3 fois le CA habituel. Ils ont eu presque la meilleure journée de CA depuis leur ouverture. Donc, pour dire que. Et ça, c'est surtout ça qui m'intéresse en vrai, parce que créer du contenu et tout, c'est bien, mais s'il y a personne qui vient derrière, ça sert à rien en soi. Et c'est pour ça que je suis toujours en mode comment ça a été, etc. et tout. Et souvent, dans la majorité des cas, il y a vraiment un véritable impact réel au sein du restaurant. Donc, et souvent aussi après, les gens ils me disent en retour personnel, donc ceux qui sont y allés eux-mêmes, qu'ils ont kiffé, etc. et tout. Bien sûr, ça arrive que des gens viennent, ils sont un peu déçus sur certains trucs, etc. Après ça, il y a des trucs que je ne peux pas trop contrôler à 100%. Mais on va dire que dans la majorité des cas, tout le monde est content et puis donc ça fait vraiment plaisir. Mais c'est vrai que je t'avoue que même parfois moi je suis toujours un peu surpris. Donc, pendant une petite période j'étais surpris de l'impact que ça avait. Genre j'étais en mode ah ouais c'est vrai. Genre il y a toujours un petit stress en soi quand tu fais un truc. Mais finalement là ça je me rends compte qu'il y a vraiment il y a un vrai impact. Et du coup tous les témoignages, les recueils bien sûr et puis après je les utilise en données statistiques un peu quand je quand on me demande des infos sur des collabs, etc., etc.
J'imagine qu'il y a un gros impact parce que si tu es prêt à lâcher ton boulot et te consacrer à 100% là-dessus, j'imagine que tu as quand même de quoi pouvoir vivre ensuite à côté.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Bah, le but après, bien sûr, en lâchant ça, c'est de faire encore plus de choses derrière et de pouvoir se consacrer, de pouvoir investir plus de temps, d'efforts pour pouvoir faire des trucs encore mieux. Et puis, ouais. Parce qu'on me demande souvent est-ce qu'on peut vraiment en vivre? Et je dirais oui, mais franchement, c'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte, mais on peut vraiment en vivre.
Et je voulais aussi parler un peu de ta communauté, parce que donc, tout à l'heure, on disait que tu avais quand même plusieurs milliers de followers. Alors, sur ce podcast, faut savoir que c'est des gens plus âgés qui nous écoutent. Je pense qu'on n'a pas la même audience qu'Axel. Mais on est sur des gens qui ont à peu près 45-50 ans. Donc, juste pour avoir une idée des personnes qui te suivent, où ils sont basés, est-ce que c'est dans Toumada? Parce que toi, je sais que tu travailles principalement avec des restaurants qui sont basés à Tana. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ta communauté, nous dire qui ils sont aujourd'hui?
Ok. Alors, majoritairement, on est sur du 16-35 ans, qui représente la majorité, je te dirais, 50% en termes d'âge de la communauté. 70% ce sont des femmes, 65% à peu près. Et on en va dire, il y a Tana qui représente quand même une grosse partie, genre 90% si on est sur Mada. Mais après, à l'international, et ça m'a surpris, mais ça fait plaisir aussi, 15% sont en France. Et du coup, ça, c'est cool. Et puis après, il y en a une petite partie, genre un peu aux États-Unis, Canada, genre un peu la diaspora malgache qui est un peu éparpillée. Mais du coup, voilà, grosse majorité, donc 80% à Mada et puis 15% en France. Et puis après, voilà. Après, ça se dispatche un peu dans quelques pays un peu différents. Mais oui, très jeune, souvent, enfin, 18-34 ans, quoi, genre dans la majoritairement.
D'accord. Cool. Et aujourd'hui, tu as des milliers de followers. Comment tu as fait pour en arriver là? Quel a été son secret?
En fait, le secret, c'est tout simple. En vrai, c'est juste de persévérer, de continuer. En fait, c'est juste de parce que même si ça, d'ailleurs, Instagram pour moi c'est drôle, mais c'est là où j'ai vraiment le moins de followers, de nouveaux followers par mois. Je sais pas, j'arrive pas toujours pas, mais j'ai genre ça augmente petit à petit. Mais malgré tout ça, tu vois, ça m'empêche pas de faire ce que je fais parce que de base, faut pas oublier que si je le fais, c'est parce que c'est un truc que j'aime, c'est une passion en soi. Et que même si parfois tu fais des trucs et ça floppe un peu, ou voilà, genre les stats bougent pas, c'est pas une raison pour arrêter parce que tu le fais de base parce que t'aimes. Et après, tout le reste, c'est du bonus. Donc, c'est juste vraiment la consistance. Donc, tu te mets un rythme et puis tu le suis et puis tu continues. Et puis petit à petit, après, tu vois, tu regardes, tu te rends pas compte et t'arrives à 5 000, t'arrives à 10 000, t'arrives à 15 000. Et l'autre secret aussi, c'est d'interagir avec sa communauté en vrai. Parce que je vois des gens, ça m'étonne un peu, mais ils répondent pas aux commentaires. Et ça m'étonne aussi, mais les gens, ils sont étonnés quand je réponds aux messages qu'on m'envoie. Ils ont dit « Ah, c'est trop bizarre que tu réponds. » Je dis « Bah, bien sûr que je vais répondre. » Je veux dire, on est ensemble là-dedans. Vous me donnez de la force et tout. Ça sert à rien si vous discutez, je viens pas vous répondre. Même si maintenant, c'est un peu compliqué. Mais voilà, donc interagir avec sa communauté, être consistant et puis être authentique aussi dans ces trucs. Donc c'est-à-dire que moi, ce que j'essaie de reproduire dans mon contenu, c'est un contenu qui me ressemble à moi. Donc par exemple, il y a un truc des gens qui n'aiment pas, par exemple, c'est que il y a des gens qui n'aiment pas quand je parle en français, parce que dans pas mal de contenus je parle en français, mais je pense aussi en malgache dans quelques-uns. Mais malgré ces retours là moi je reste sur ma position parce que j'ai une cible et j'ai un certain type d'audience qui m'intéresse moi, que je sais que bon bah c'est pas un souci pour eux. Et donc voilà, viser un, savoir qui est sa cible, savoir qui, avec qui on veut parler, parce que du coup, il y a ce petit quote que j'ai vu hier, en plus, c'est parler à tout le monde, en vrai, c'est parler à personne. Et du coup, quand tu, voilà, si tu décides de faire ça, faut que tu saches aussi à qui tu veux parler. Et je pense que quand tu as ces éléments-là en place, tu peux, il y a aucune raison pour que ça marche pas. Voilà.
Et donc toi, le Tikal qu'on voit sur Instagram ou sur Facebook, c'est le tueur qu'on rencontre dans la vie. Il n'y a pas de, tu t'es pas créé un personnage ou quelqu'un de virtuel qui est aimé par sa communauté et versus je te rencontre dans la vie, en fait, t'es totalement différent.
Non, du tout. En fait, souvent, quand les gens me rencontrent, après, ils me disent « Ah, mais en vrai, t'es vraiment cool. » Voilà, juste pour dire. C'est vraiment moi que quand je parle dans la vraie vie, je vais parler en français, je vais parler en malgache, je vais être comme ça, je vais faire plein de petites blagues débiles et tout, mais parce que voilà, c'est moi et puis c'est comme ça. Et donc, non, vraiment, j'ai vraiment. Mais ce qui est drôle, tu vois, c'est qu'au début, quand j'ai lancé la page, c'est que je montrais pas mon visage. J'étais vraiment, moi, je voulais être en mode anonyme, genre que personne ne me connaissait, tout, etc. Il y a même des gens qui ont cru que j'étais une meuf. Genre, j'étais en mode quoi, mais t'es un mec, mais ton feed est tellement bien rangé, etc. Et tout. Je dis, ouais, non, il y a des mecs qui ont des jolies filles, ok. Et après, c'est vraiment la meilleure décision, c'était vraiment de me montrer parce que ça a permis encore de faire des types de contenu, de faire plus de choses que j'aurais jamais pu faire si j'étais toujours resté dans l'ombre en mode anonyme, quoi.
Mais c'est
Donc,
l'algo
ouais.
aussi. L'algo te favorise quand tu montres des visages sur les réseaux sociaux.
Ça, je ne savais pas. C'est bon à savoir. L'algo favori.
Ouais. Une
Mais
fois que
après,
tu
même
mets...
juste dans un contexte tout simple, associer un visage, une personne à quelque chose, donc
Tout à
ouais.
fait. Et c'est pour ça que l'algo te met forcément en avant. Parce que ça, c'est un peu mon dilemme avec Malabar. Moi, j'ai pas forcément envie de montrer ma tête, parce que j'estime que c'est. Alors, contrairement à toi, moi, c'est mes invités que je mets en avant. Mais je sais que toutes mes publications sont pas forcément favorisées par l'algo, parce qu'il n'y a pas de visage globalement sur tous mes posts. C'est des photos
Après,
de paysages, que ce soit sur
ouais, vas-y, vas-y.
LinkedIn, sur Facebook ou sur Instagram.
Après, tu as plus de choix. Maintenant, je veux dire, tu peux faire, tu peux créer un avatar, par exemple,
Tout
si
à
maintenant
fait.
tu veux créer un truc un peu différent. Ça peut être sympa. Avec un malabar dessus ou une personne, voilà, tu as plus de choix maintenant, je pense. Ça peut être une petite peluche. Ça peut être cool. Ça peut être cool.
Mais c'est exactement ce à quoi je pensais ce matin. Donc, tu vois, c'est intéressant que tu me le dises, parce que je me suis dit, je vais créer un petit avatar de Simbadj. Comme ça, c'est comme si c'était moi, mais c'est pas moi.
Ouais, ah, tu vois, on est comme ça. Trop bien.
Très bonne idée. Avant de terminer, j'avais quelques questions sur tes projets. Parce que tout à l'heure, tu disais donc fin janvier, tu te
Ouais.
consacres 100% à Tikal. Toi, comment tu vois l'avenir déjà sur 2024, parce que je pense que ça va te laisser une bonne année pour te positionner. Et surtout sur le moyen terme, est-ce que tu as des projets en tête? Est-ce que tu as déjà des scénarios de ce qui va se passer? Si tu pouvais un peu nous en parler.
Ok. Alors, déjà, moi, généralement, je disais tout à l'heure, je suis très au jour le jour. Donc, je vais pas dire j'ai une vision à méga long terme, ou bien sur le genre je serai où la fin de l'année. Ça, je ne sais pas trop. Ce que je sais, ce que je peux dire, c'est que ce qui est en cours actuellement, c'est quoi? C'est il y a une application qui est en train d'être développée depuis quelques mois déjà, mais on espère pouvoir faire un tout premier jet au début de l'année. Voilà, une petite application sympa et tout. Et le but de l'appli de base, c'est de parler de. C'est pouvoir mettre le calené à l'intérieur. Alors, le calené, c'est quoi? Pour faire simple, c'est comme le guide ultime, du coup, pour ceux qui sont en France, qui doivent probablement connaître. Donc, ça veut dire que c'est un recueil un peu de tous les restos, mais réunis dans une petite application sympa et tout, pour avoir des petits deals, des petites offres dans tous les restos. Donc, ça peut être sympa. À part l'application, on m'a demandé un peu aussi des food tours. Donc, souvent, quand les gens viennent de l'étranger, ils viennent à Mada, ils veulent découvrir des endroits, ils n'ont pas forcément envie d'y aller tout seul, etc. Et tout. Donc, j'ai fait un premier crash test cette année. Ça s'est bien passé, ça s'est plutôt bien passé. Donc, l'année prochaine, mais je ne pouvais pas trop faire par manque de temps, mais du coup, l'année prochaine, normalement aussi, on devrait pouvoir organiser ça, ça devrait être sympa. Et puis après, bien sûr, continuer sur toute la partie création de contenu. Moi, je voudrais bien avoir une petite team aussi, quand même, en vrai. Pas trop de monde, mais genre, des petites personnes, parce que c'est toujours sympa de pouvoir échanger des idées avec d'autres personnes et tout. Donc, je me vois, ouais, je vais demander un peu d'aide à côté. Et aussi, j'ai lancé tout récemment un petit shop pour vendre des petits goodies, mais des goodies cute, kawaii, mais toujours un peu avec un rapport avec la nourriture. Et donc voilà, ce petit shop-là et tout. Parce que du coup, là, je suis vraiment dans une période de diversification, du coup, en vrai. Donc, diversification des sources de revenus pour pouvoir être tranquille et puis pouvoir se faire plaisir et pouvoir continuer toujours à faire des choses bien. Et tout ce que je gagne, en vrai, je le réinvestis pour. pour pouvoir faire mieux encore à chaque fois. Donc ça peut être dans du matos, ça peut être dans des formations et tout. Ce que je m'inspire pas mal du coup des autres créateurs et je sais que c'est ce qu'ils font et j'essaye un peu, je trouve que ça marche bien. Et voilà, donc on verra d'ici la fin de l'année, on sera à quelle période, quel stade, mais ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal.
Ouvrir ton resto, c'est un projet, pas du tout.
C'est en tête, mais ça ne passera pas pour tout de suite. C'est encore, c'est trop compliqué pour l'instant, en tout cas de mon point de vue, parce que comme je disais tout à l'heure, à un moment j'ai fait un petit e-shop de cookies qui a bien marché, surtout au début, mais après il y a des difficultés, j'ai eu du mal un peu à garder le rythme, etc. et tout. Donc je sais que c'est un truc que j'aime, mais on va encore un peu attendre avant d'en arriver là. Je pense encore on va se concentrer d'abord sur la partie que je maîtrise. Et après, on pourra voir pour un resto plus tard, quoi. On n'est pas pressé.
D'accord, ouais. D'accord.
Mais oui.
Pour terminer, je vais te poser mes petites questions que je pose toujours à mes invités sur Malabar. Est-ce que tu es prêt?
Ouais, et je connais la première en plus, parce que j'ai écouté.
Quel est ton lieu préféré à Madagascar?
Mon lieu préféré à Madagascar, franchement, c'est Tana. Je sais pas, mais il y a des gens, ils aiment pas, mais moi, je suis tellement grandi ici, je connais tellement, j'ai pratiquement plein de potes ici, je kiffe Tana en vrai. Donc, mais surtout Tana, parce que j'habite du coup du côté d'Ivatu. C'est mon préféré, c'est Ivatu en fait. C'est le meilleur quartier, j'arrête pas de le répéter, mais parce qu'il y a tous les avantages d'être en ville pratiquement, et alors que c'est tranquille, c'est sécurisé, t'es au calme. Donc voilà, plus précis encore, la partie Ivatu, Ambubau, meilleur quartier, 105, voilà, on est là.
Ton plat malgache préféré?
Un malgache préféré, très facile, c'est le Tsaramasu Sinaksu. Voilà, pas le raftout, parce que je sais que du coup, le raftout a été dit plusieurs fois, mais non, moi c'est...
Pas le Wandsburg.
Non, pas le Wandsburg. Il n'y a pas de débat. Non, il n'y a pas de débat. Ça ramasse au-dessus de tous.
Ton plus beau souvenir à Madagascar?
Mon plus beau souvenir à Madagascar. Ok. Là, c'est un peu plus compliqué. Hein. Quel est mon plus beau souvenir à Madagascar? Là, tout de suite, ce qui me vient en tête, c'était des vacances à Sainte-Marie avec des amis suisses de mes parents. Donc, c'était un couple de base qui était venu à Madagascar il y a très, très, très longtemps. Et puis, la dame est revenue parce que du coup, ils ont perdu leur père. Mais du coup, la dame est revenue avec ses enfants cette fois-là. Donc, on était quatre. On était un grand groupe à partir. Et puis, on a fait Tana, Sainte-Marie et des trucs comme ça. C'était vraiment une super expérience. J'ai eu mon baptême de plongée aussi. Bien sûr, on a bien mangé parce que c'était sur Sainte-Marie. On a fait les réveillons au bord de la plage. Et ça me s'est fixé un peu gravé dans ma tête. Et ouais, c'était un très, très, un beau souvenir.
Là, tout de suite. Un mot ou une expression que tu dis souvent en malgache?
Je dis toujours « alif ». Dans plein de choses, genre parce que j'aime bien, tu vois, quand je vois d'autres personnes réussir et que sont sur un train, sur un projet, etc. et tout, j'aime bien commenter juste Alef pour vraiment encourager, ou bien qu'on me propose des trucs, je dis aussi Alef, et je vois un truc que j'aime bien dire en commentaire, des posts et tout sur des stories, peu importe, pour donner de la force. Donc ouais, ça va être Alef.
D'accord. Et pour terminer, si tu peux partager un message à l'audience de Malabar, ce que tu veux, tu peux parler de quelque chose dont on a déjà parlé. Rafakatono amtenkas, satitikliwe amtenkaskelo nat Malabar.
Ok. Rania fachatik sarena fusinam nareo zania. Ramisi nufunut, on at nareo, metwe projet, yu, metwe ande, nanangana urna, sanaromis arjatina wato. Famatet koshunetika, numanaka nantenatika, natatera kanleizian. Nunyantu marsamia fa, atofi, satia. Tsy misy ohatra ny hoe ny amin'ny telefona matetika hoe bon raha ohatra moa zany le izy tsy ataonao be bon tsy miova amin'ny fiainanao fa ny eo any eo fa raha ohatra le izy ka ataonao de ça flop, bon bah tu vas faire un autre film, notre temps de théorie. Fa rauchalis, autonome, c'est canet, de yom sen, mis à la chapitre de pimitum chango, rina, c'est richard rich safe, c'est mousan, nous changa tank, c'est un œuvre carazekwe, tu m'y sautes ni manage, donc voilà, c'est un petit nové. Un job à tous.
Marne. Alif. Marne. Marne, des noms. Super. Merci beaucoup, Thio. Merci d'avoir partagé ton histoire avec nous sur Malabar et on te souhaite une très bonne continuation.
Merci beaucoup, Samba. C'était un vrai plaisir. Et puis, bah, toi aussi, du coup, et au podcast Malabar, on souhaite beaucoup, beaucoup de bonnes choses, de réussites. Et puis, Alif, Alif à Malabar.
L'épisode touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Malabar, c'est bien plus qu'un podcast, c'est une aventure à travers Madagascar. Ce podcast, c'est également le vôtre. Alors si vous souhaitez partager votre histoire ou si vous connaissez quelqu'un qui mérite d'être entendu, n'hésitez pas à nous contacter sur malabar.fr ou sur LinkedIn Saint-Bach Rappé Farnouche. Ensemble, continuons à explorer les joyaux cachés de Madagascar. Amanarakanjeyo, velum.